Aujourd'hui, 6 août, Emma. 18h12. Je lis sur le visage d'Agathe les efforts qu'elle fournit pour ne pas s'enfuir. Je tente à plusieurs reprises d'expliquer que nous devons y aller. Mais les Garcia ont l'air trop heureux de nous avoir pour nous laisser partir. Et le bien-être des autres grille toujours la priorité à ma volonté. À première vue, ça a l'air d'une qualité. Mais quand je me retrouve à donner un pourboire au coiffeur pour le remercier de m'avoir fait ressembler à une brosse à chiottes, ou à acquiescer quand mon collègue tient des propos qui frôlent le racisme, c'est encombrant. J'ai longtemps affirmé que c'était mon excès d'empathie qui me poussait à ne pas mettre les gens dans une situation embarrassante. Mais je crois qu'en réalité, la raison est beaucoup plus triviale et tient à mon désir d'être aimée. Agathe porte son téléphone à son oreille. Allô? Non. C'est pas vrai. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Elle raccroche, l'air horrifié. Je suis désolée, je dois y aller, mon amie Laura vient d'avoir un accident, elle est hospitalisée, apparemment c'est très grave. Elle joint le mouvement à la parole et sort de la cuisine, traverse le couloir, le jardin, pendant que je la suis, moi-même suivie par Madame Garcia. Revenez quand vous voulez, me dit-elle alors que je passe le portail. J'espère que son amie va s'en remettre. Et pour le chat, voyez avec le propriétaire du numéro 14. Je crois que votre grand-mère et lui étaient très bons amis. Même son air de conspiratrice ne parvient pas à bousculer ma politesse. Je la remercie pour son accueil et retourne chez Mima. Agathe se sert une poignée de cacahuètes dans la cuisine. Je ne sais pas ce qui m'a donné le plus envie de vomir, dit-elle en grimaçant. Leur jus d'orange ou leur fils? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Bien sûr que non, s'amuse-t-elle. Je pensais pas être aussi bonne comédienne. Je me disais bien que je ne connaissais pas de Laura. Mais elle n'existe pas. Je ne voulais pas porter la poisse à une de mes vraies amies en lui inventant un accident. Je suis désolée, je voulais pas te faire peur, mais je ne pouvais pas rester une minute de plus en sa présence. Je prends une poignée de cacahuètes à mon tour. Putain, un gamin, il a dû changer. Impossible. Il est incurable. Bite dans le cerveau. Stade 4. Inopérable. Je ne peux m'empêcher de rire. Et Agathe, malgré tous ses efforts pour rester renfrognée, se bidonne aussi. On se sert du vin et on s'installe sur des coussins posés à même la pelouse, à l'ombre du tilleul. Grâce à la situation de la maison sur les hauteurs d'Anglette, on aperçoit au loin, par-delà les toits rouges et les jardins, les silhouettes imposantes des montagnes pyrénéennes. « Tu as quelqu'un en ce moment ?» je demande à Agathe. Elle secoue la tête. « Plus depuis 3 semaines. » Je n'ai pas besoin d'insister pour qu'elle me raconte son histoire avec Mathieu. Il intervenait en tant qu'orthophoniste dans l'EHPAD où elle travaillait. « Pour une fois, précise-t-elle, elle n'était pas tombée éperdument amoureuse de lui dès la première seconde et n'avait pas été prête à l'épouser dès la deuxième. » Pendant des mois, on a été copains. On s'entendait hyper bien, on avait le même humour. Merde. On allait au ciné, au ski, on matait des séries ensemble, poursuit Agathe, sans relever ma taquinerie. Elle replonge dans son histoire en me la racontant. Pour Noël, ils sont partis à Londres. Elle rêvait depuis longtemps de voir les décorations et les illuminations. C'est à la sortie du tunnel sous la Manche qu'elle l'a embrassée, pour exprimer sa joie d'en être sortie vivante. Je la coupe pour la féliciter. Fut un temps où elle était incapable de monter dans un ascenseur. Elle me remercie et poursuit. Mathieu a rapidement emménagé avec elle. Elle guettait le moment où elle allait commencer à se lasser, à ne plus le supporter. C'était ainsi que s'étaient passées toutes ses relations jusque-là. Mais cette fois, c'était différent. C'était le bon. J'en suis sûre. Peut-être justement parce qu'il avait été mon ami. Avant d'être mon mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle écrase longuement sa cigarette. Il n'a pas supporté, tu sais, moi. Elle rassemble ses cheveux en chignon au sommet de son crâne, l'air de rien. Mais je sais le combat qu'elle mène pour ne pas s'effondrer. T'es sûre que c'est pour ça? Je demande. Certaine. Il m'a dit que c'était trop dur à vivre au quotidien. Je le blâme pas, Parfois, je me dis que si je pouvais me quitter, je le ferais. Je cherche les mots pour la réconforter, mais elle ne m'en laisse pas le temps. Changer de sujet lui semble la meilleure option. Et toi, avec Alex, ça fait combien de temps maintenant? 19 ans. Et toutes nos dents. Expression interdite depuis 1925. Et tout se passe bien entre vous?
Ça va, je me plains pas.
Elle écarquille les yeux. Ça fait envie! Une vraie bande-annonce pour la vie de couple! Je ris en réalisant mon manque d'entrain et je lui explique. Je ne vibre plus. Insidieusement, la passion a tiré sa révérence au profit d'un sentiment plus profond, plus confortable, mais aussi nettement moins excitant. Je repense à nos débuts, aux chatouilles dans le ventre, aux palpitations, à l'esprit ailleurs. Ça occupait toute la place, ça renversait tout le reste et ça rendait invincible. Pendant une période, et j'ai eu du mal à me dire que je ne ressentirais plus jamais ça. Tu sais, ça dure jamais, dit Agathe. Je rêve de ça, moi. Rester assez longtemps pour créer de vrais liens. Connaître l'autre suffisamment pour lui confier ma vie. Savoir d'avance ses réactions. Ne pas avoir de mauvaises surprises, se comprendre en un regard. Avoir des souvenirs communs. Être aimée telle que je suis. Pas telle que j'ai l'air d'être. Le problème, c'est que je me lasse dès que ça commence à ronronner. Je rêve de quelque chose que je ne supporte pas. Des grappes de nuages flottent au-dessus des montagnes. Je pose ma main sur son épaule. Tu trouveras quelqu'un qui t'aime comme tu es, Agathe. Lui, c'était un con. Personne ne devrait te quitter pour ça. Elle reste un moment silencieuse. Puis, sans me regarder, répond : C'est pourtant ce que tu as fait.